siège des cardinaux est créé progressivement de l'origine, qui date des premiers temps d'église, et en fait du 7e siècle, même 6e siècle, à savoir la désignation des prêtres qui sont romains et qui occupent des fonctions administratives dans les différentes églises. D'ailleurs, l'origine du mot est discutée par les historiens, soit cardos égale pivot, soit quelqu'un qui administre fixement un domaine et un titre, soit incardinatio, quelqu'un qui administre plusieurs églises. Donc en fait, c'est une fonction qui, au-delà de la fonction proprement religieuse, désigne des tâches d'administration fixes et importantes dans un monde très perturbé, n'oublions pas, pour Rome à cette époque. C'est la période, disons, qui va du 6e siècle jusqu'au 11e siècle, c'est vrai pour l'Église et pour le monde, le choc entre Rome et les invasions barbares, les querelles avec Byzance, le poids du pape qui est très discuté, et les querelles intestines au sein de Rome. Les cardinaux sont les héritiers du clergé romain, qui élisaient au début le pape, quelquefois par acclamation, comme c'était encore pendant longtemps prévu dans le règlement, si l'on veut, du conclave.
Quel est le rôle du Collège Cardinalis et comment ce rôle a-t-il évolué au fil des siècles?
Il y a une stabilité que Grégoire VII a encouragée et qui ensuite a constitué véritablement, progressivement, une institution de plus en plus importante, qui d'ailleurs a évolué d'une façon très curieuse, parce que au 15e, 16e siècle, il y a eu une sorte de baisse de l'influence du Collège Cardinalis. Il y a même eu à un moment donné ce qu'on peut appeler une sorte de réduction et une minorité cardinaliste qui occupait des places trop importantes et qui ne rayonnait plus comme il fallait. Et c'est à partir de Paul III Farnèse que progressivement la fonction cardinaliste a été restaurée et a repris l'importance qui est la sienne au fur et à mesure des siècles jusqu'au siècle actuel, notamment à partir du 19e siècle. Le collège cardinaliste au fil des siècles, qui était jusqu'à s'abaisser au nombre de 6 sous Innocent III, est aujourd'hui composé de 120 cardinaux qui sont répartis dans le monde entier. Donc on peut dire que d'un point central proprement romain, petit à petit étendu à l'Europe, il est devenu maintenant la diffusion de l'Église universelle, le point nodal autour duquel s'articule l'ensemble de l'Église universelle dans sa diversité. Alors, c'est ça qui était toujours le vrai problème, c'est que puisque le Collège Cardinalis élit le souverain pontife, mettre la main sur le Collège Cardinalis pour les puissances temporelles, notamment au moment de la querelle des investitures entre le sacerdoce et l'Empire, était très important. S'assurer qu'on pourrait avoir un pape qui appartienne à sa propre nationalité, ça a toujours été le grand débat. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est devenu indépendant, il a donné des preuves flagrantes, notamment au moment de l'élection de Jean-Paul II.
Pouvez-vous nous parler de la structure du Collège Cardinalis? Quels sont les différents types de cardinaux et quel est leur rôle précisément?
Alors, il y a d'une part des cardinaux évêques, des cardinaux prêtres, des cardinaux diacres. Et les cardinaux, à part les premiers sur les cardinaux prêtres, c'est ceux qui sont donc attachés à une église romaine. Ensuite, sont apparus les cardinaux diacres, parce que c'était ceux pour lesquels étaient créés des diaconies, c'est-à-dire des ensembles territoriaux dans Rome, les cardinaux prêtres étant, eux, répartis autour des 4 basiliques majeures qui gouvernaient 7 groupes d'églises, et puis les cardinaux évêques, qui sont apparus plus tard, ils ont représenté ce qu'on peut appeler les auxiliaires du pape. Donc ces trois ordres sont maintenus, mais depuis Jean XXIII, les cardinaux doivent tous, sauf exception, être consacrés évêques. Donc la répartition, qui est une répartition titulaire par rapport aux églises et aux souvenirs et à la tradition historique, ne correspond plus à ce qu'est la réalité de l'administration et surtout du pouvoir juridictionnel que peuvent exercer les cardinaux. Et on peut dire, pour résumer les choses, que la création des trois ordres représente l'évolution du collège cardinalis, qui est la réunion de l'ensemble des cardinaux dans une institution destinée à élire le pape, et qui est la seconde institution de l'Église après le souverain pontife et avant les patriarches et avant les primats, et que cette institution s'est formée très très lentement au titre du conseil, de l'administration et de la responsabilité et surtout du choix de la personne du souverain pontife.
Il existe un ordre protocolaire strict dans le Collège des cardinaux. Quel est-il?
Il y a un ordre protocolaire du Collège des cardinaux qui est donc en fonction de cette distinction des trois ordres, cardinal évêque, cardinal prêtre, cardinal doyen, à peu près fixe depuis le 8e siècle, c'est-à-dire depuis le pontificat d'Étienne III. Et en fait, il est régi par les rapports entre Rome et les églises voisines, qu'on appelle maintenant des églises dites suburbicaires. Elles sont classées de façon très stricte, le cardinal doyen occupant le titre de l'église d'Ostie. Ensuite viennent Velletri, Porto et Sainte-Rufine, Albano, Frascati, Sabine et Palestrina. Donc ces titres sont les titres qui sont donnés aux cardinaux évêques, qui sont donc forcément très restreints. On ne peut pas y avoir plus de cardinaux évêques qu'il n'y a de titres diocésains. Alors après, les cardinaux prêtres, comme les cardinaux diacres, sont titulaires d'églises qui sont des églises sur le territoire romain, à Rome, si possible, ce qui est le plus prestigieux. Je veux dire, les cardinaux français sont titulaires de titres prestigieux, la Trinité des Monts, Saint-Louis des Français, et puis certains cardinaux fraîchement pourvus de titres cardinalistes ont des églises à la périphérie de Rome.
Vous avez évoqué le rôle et l'évolution de ce rôle du Sacré Collège, également la hiérarchie parmi les cardinaux, mais comment un cardinal est-il créé ?
Un cardinal est créé par le pape à son choix, et surtout maintenant, le souverain pontife peut créer des cardinaux dans les ordres réguliers, comme il l'a fait pour parler du cas français pour le père de Lubac, puis le père Congar, ou avant pour le père Daniel Lou, parce qu'il estime que ce sont des personnalités qui ont témoigné un mérite exceptionnel et un sens des responsabilités qui méritent non seulement d'être récompensés, ce qui est pour leur confiance et pour le modèle qu'ils représentent. Car il faut bien voir aussi qu'un cardinal, puisqu'il porte la pourpre est destinée à exprimer le martyr, c'est un témoin. Témoin au-delà de l'administration de ce qu'est la foi, la défense de l'Église et la défense de la tradition. Donc le pape peut le faire comme il l'entend. Ceci étant, il y a des règles. Ces règles sont toujours suivies, elles sont plus ou moins variées dans le temps. Mais il est convenu que sont créés cardinaux, par exemple, au sein de la curie, les préfets des grands dicastères ou des grandes congrégations et de certains grands conseils. Autrefois, il y avait une règle qui était établie, elle était double, c'est-à-dire que les chefs des dicastères étaient forcément des cardinaux. Le pape les recevait chaque semaine, au moins en audience, qu'on appelait les audiences à tabella, comme on dirait une sorte de conseil des ministres, si vous voulez. Mais le secrétaire d'État, par exemple, doit forcément être un cardinal. Et d'autre part, il y a des sièges cardinalistes dans tous les pays du monde, dorénavant, pour prendre le cas de la France, Paris forcément, Lyon, Bordeaux, en alternance avec Toulouse pendant longtemps. Mais par exemple, en 1932, Mgr Liénard, évêque de Lille, a été créé cardinal pour signifier son mérite, ses efforts, pour régler la question sociale dans une situation très troublée. Donc ceci prouve que le pape a la main libre, si j'ose dire, peut suivre son aspiration.